Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est une vraie provocation qui puisse venir comme ça.
Non, mais il y a une vraie colère.
Tout le monde pensait peut-être amener le coaching ball avec la tête de Macron.
On va s'approcher au plus près du lieu où il doit être. Et puis on va certainement faire du bruit, des messages, faire voir qu'on n'est pas content. Et que la...
On va lui montrer qui on est. C'est ce que disait ce syndicaliste de la CGT du côté des Hautes-Alpes.
Emmanuel Macron n'était pas sorti de l'Élysée pour aller en région depuis maintenant 2 mois. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé à l'étranger. D'ailleurs, certains notaient qu'au moment des journées d'action, il était toujours parti ailleurs. Alors c'était peut-être une coïncidence. Mais il ne passe plus, depuis qu'il a été réélu, ne passe plus ces fameux 2 jours en France. Vous savez, il partait 2 jours, il dormait à la préfecture, et comme ça, il pouvait se déplacer plus longuement dans un département, dans une région. Ça, il ne l'a pas fait. Il a beaucoup fait lors de son premier quinquennat. C'est d'ailleurs l'un des présidents qui a le plus bougé malgré le Covid. Il ne le fait plus. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être un problème dans la relation qu'Emmanuel Macron a avec la France et les Français. Et donc là, il doit prendre la parole à Savine Le Lac, tu l'as dit, aux alentours de midi. On a entendu nos amis de la CGT dire qu'un comité d'accueil était déjà, d'ores et déjà, mis en place. Alors, en hélico, en parapente, en canoë, envahissons Macron, c'est le mot d'ordre. Bon, on se doute bien que le service de sécurité sera tel que ça sera un peu bunkérisé, donc difficile d'approcher Emmanuel Macron. A priori, pas de bain de foule prévu, mais lui, il aime bien surprendre et de temps en temps, d'ailleurs, il avait pris une gifle une fois à cause de ça. Il aime bien surprendre, de sortir de la voiture, d'aller au contact des gens, etc. Est-ce qu'il va le faire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il doit le faire? Est-ce qu'Emmanuel Macron doit repartir? Est-ce qu'il peut vraiment se déplacer en France aujourd'hui sans problème?
32-16 pour le dire au grand gars Jean-Baptiste.
Ah ben je pense qu'évidemment qu'il peut se déplacer en France, y compris pour la raison qu'Olivier a citée, c'est qu'il y a un service de sécurité qui est important et qu'on est, malheureusement, ou en tout cas c'est une donnée, qu'on est habitué à la conflictualité en France, notamment depuis les Gilets jaunes, et que le président a eu à connaître des événements de tension, dont la gifle que tu as évoquée. Le sujet, c'est donc pas tant de se déplacer, c'est le sujet d'être audible sur les sujets qu'il veut aujourd'hui traiter. Et on le voit bien, il veut traiter le sujet de la sécheresse, de la ressource en eau. Et ça, effectivement, ça paraît être tactiquement une bonne idée, mais je pense que dans l'état de l'opinion, à l'approche de la mobilisation de mercredi prochain, de la décision du Conseil constitutionnel, enfin c'est vrai que ça,
quoi qu'ils disent, en fait on l'écoute audible, plus. Quoi qu'ils disent, on l'écoute plus.
Bah, dans ce contexte-là, je pense que pour les prochaines semaines, en vérité, le calendrier est encore très largement dicté par la réforme des retraites. C'est de mémoire, les syndicats en intersyndical vont être reçus mercredi prochain, la mobilisation jeudi prochain, la décision du Conseil constitue le 14 avril. Donc je pense que jusqu'à mi-avril, peut-être même jusqu'à la fin du mois, il n'y a qu'une actualité en France, c'est la réforme des retraites.
Est-ce que c'est quand même pas bien qu'il aille voir les Français un peu se déplacer?
Un peu trop tard.
Ah, mais s'il veut constater qu'il est détesté, en effet, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Non, mais franchement, il s'est mis dans cette situation lui-même. Je veux dire, avant cette réforme des retraites, il y avait une majorité de Français pour une réforme. Aujourd'hui, il y a une très grande majorité de Français contre la réforme d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Sans doute de l'arrogance, sans doute du mépris, sans doute un peu d'incompétence aussi, et du mensonge. Parce que Monsieur Macron nous donne des leçons à la terre entière. Je me souviens qu'il parlait de Viktor Orban ou des dirigeants polonais comme des esprits fous qui mentent à leur peuple. Mais qui a menti sur les 1200 euros, par exemple? Il y a eu là aussi une rupture de confiance. Quand le gouvernement a dit qu'une majorité de retraités allait toucher au moins 1200 euros et que ce n'était pas le cas, comment voulez-vous que le président de la République ait la confiance des Français? Donc il est dans une situation très compliqué, et surtout c'est lui qui a apporté la réforme des retraites en 1995. Lors de la réforme des retraites, c'était Alain Juppé le fusible. Ouais. En 2006, c'était Dominique de Villepin. Là, c'est Emmanuel Macron le fusible. Donc il a aussi cherché cette situation. Par contre, ce qui me choque aussi, c'est ce qui se passe à gauche du spectre politique avec des députés de la NUPES qui ne voient pas l'autre comme un adversaire politique à combattre, mais comme un ennemi à abattre. Et tout ce qu'on a vu sur la personnalisation, sur l'appel à la violence, sur ce député de la NUPES qui a transformé quand même un ballon en tête de ministre, c'est évidemment intolérable. Moi, j'aimerais bien que dans ce pays, on puisse se mettre à nouveau autour d'une table, qu'on puisse à nouveau débattre, parce que la démocratie est quand même sérieusement amochée, et à la fois c'est le climat insurrectionnel des insoumis qui crée cela, mais aussi le mépris transcendantal de M. Macron.
Kauter.
Tu me fais prendre
mépris transcendantal.
Tu me fais prendre la défense de la NUPES, voilà, c'est ça. Alors que il y a 577 députés, mon cher Kevin, mais il y a 67 millions de Français. Dans ces 67 millions de Français, tu as plus des trois quarts qui sont contre cette réforme et contre Macron depuis le début de cette mobilisation, en fait. Donc, au-delà du caractère politique, il y a un caractère social et humain qui est aujourd'hui insoutenable. Moi, je le sonde à chaque manifestation. Et même si, effectivement, j'entends sur les plateaux télé que vous dites que la manifestation s'essouffle, non, c'est-à-dire que les gens font grève au fur et à mesure parce que toi aujourd'hui, toi demain, moi après-demain, parce que c'est compliqué, parce que l'inflation, parce que oui, toi je sais que tu fais pas grève, mon cher Kevin, mais c'était une image.
Merci de pas m'insulter.
C'était une image. Et en fait, les gens restent hyper mobilisés et ils n'ont pas besoin de la France insoumise pour appeler à la violence, si tu veux, parce qu'ils vivent eux-mêmes tout ça. Ils vivent ce mépris, ce silence et cette espèce de tu sais, quand tu ignores les gens, enfin, comme le dit le proverbe, le silence est le meilleur des mépris. Mmh. Et donc, ils le prennent hyper violemment, les citoyens, en fait, de pas être écoutés. Et ils se comparent forcément au mouvement des Gilets jaunes, qui a été hyper violent très rapidement, où il y avait un minimum de personnes. Parce que quand tu compares des millions de citoyens français, de travailleurs, de familles qui défilent maintenant depuis 3 mois, et je salue le travail des syndicats, parce que franchement, il y a aucun débordement, en tout cas, à Marseille et dans les manifs qui sont encadrés par les syndicats. Quand tu vois que le président ne répond pas, quand tu vois que le gouvernement ne répond pas, et qu'on leur dit, OK, on veut bien vous recevoir, mais pour parler de tout le reste, mais pas de la réforme des retraites qui vous anime, qui nous anime, ça c'est extrêmement violent. Et à cette réponse-là, moi je pose la question, je ne la légitime pas la violence, mais qu'est-ce qu'il reste au peuple comme moyen d'expression pour se faire entendre par ce gouvernement et ce président qui reste sourd? Et c'est donc ça, en fait, la plus grande violence.
Il n'a que ce qu'il mérite, quoi, Emmanuel Macron. Ben,
en fait, il a envoyé un boomerang et il n'a pas compris que le boomerang revenait, en fait.
D'accord.
Et là, il est revenu, mais il revient, il est hyper tranchant. Et je prends cette, et j'appelle pas la violence, j'appelle pas le tuer. Mais c'est la réalité. C'est-à-dire que de pas respecter les gens, de pas les écouter, de pas mettre les organisations syndicales qui sont unies, qui font front, même si elles ont beaucoup de différences pour certaines, etc. Et d'être complètement, tu vois, muré et de, c'est extrêmement violent pour le peuple. C'est extrêmement violent pour le
peuple. Ça marcherait si la stratégie depuis 2017 de la France insoumise, c'était pas la conflictualisation tout le temps.
Oui. Mais
et c'est là
Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs a théorisé.
Il a théorisé qu'il fallait tout conflictualiser, qu'il fallait tout hystériser, et c'est leur stratégie de base. Donc quand
oui, mais le
base,
président de la République aujourd'hui,
tu as quand même une partie juste, je suis là-dessus, mais tu as quand même une partie de l'arc politique de la gauche extrême radicale, tu l'appelles comme tu veux, qui considère qu'on rentre dans tous les débats en conflictualisant, et y compris en étant pour le coup assez ambigu vis-à-vis de l'usage ou du recours à la violence à des fins de revendication sociale. Tu as un sujet. Donc tu peux très bien faire la conclusion que tu veux, mais il n'en reste pas moins que l'extrême gauche de ce pays rentre dans les conflits aujourd'hui en
oui, mais toi tu parles de 60 députés à l'Assemblée nationale, parce que je oui, considère ça... que pas toute la NUPES n'est violente et pas toute la NUPES.
C'est pas ce que je dis. Voilà. Jean-Luc Mélenchon théorise la conflit.
Jean-Luc Mélenchon, tu sais que c'est un sujet pour moi et tu sais que c'est pas celui que je porte dans mon cœur, donc il y a aucun problème. Mais ne me mets pas dans une position où je vais être obligé de.
Quand même le chef des Insoumis.
C'est le chef. Il se croit encore pour le chef, mais bon, je crois que lui, pour le coup, la retraite, il devrait la prendre. Ceci étant dit. Moi, je te parle des citoyens français et de ceux qui se mobilisent, en fait. Je me fous de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et après, moi, si j'avais été députée, tu sais que je me suis présentée complètement à l'arrache, mais si j'avais été députée, oui. Me priver du débat et me priver du droit de vote, c'est extrêmement violent aussi. L'usage du 47.1 et du 49.3, c'est extrêmement violent pour les députés aussi. Ils sont là pour débattre, pour construire la France, pour représenter les gens qui les ont portés à l'Assemblée nationale. Et priver les gens de ce droit constitutionnel, c'est extrêmement violent aussi. Donc moi, je te pose la question, quand on a un gouvernement qui méprise les députés, qui leur donne pas leur droit de vote, leur droit de débattre à l'Assemblée nationale, quand il méprise les certaines organisations syndicales, qui ne les reçoit pas, qui les met dans un silence. Et quand je termine sur ça. Et quand il méprise aussi le peuple, quelle réponse de ces trois entités? Qu'est-ce que tu veux attendre, en fait?
C'est vraiment une question, parce que moi je veux pas qu'on dérive sur les insoumis, c'est trop facile.
Exactement.
Les insoumis, les Gilets jaunes, c'était pas les insoumis. Hein. La détestation autour d'Emmanuel Macron, moi je pense qu'elle date des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'est pas les insoumis. Ils ont tenté de récupérer le mouvement, les insoumis, mais c'était pas du tout les insoumis qui, au départ des Gilets jaunes. Emmanuel Macron s'en est sorti ensuite assez habilement, en retirant un taxe carbone, mais aussi en faisant ce grand débat. Et là, du coup, il a été au contact des Français. Il faut reconnaître que l'exercice était plutôt réussi. Là, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que, il a pas fait campagne pendant la présidentielle, donc il n'a pas fait beaucoup de déplacements. Donc il y a pas eu de contact véritablement avec les Français. Ensuite, il a été beaucoup sur international, et c'est normal avec la guerre en Ukraine, etc. Là, la réforme des retraites a occupé le terrain. Donc en fait, il a plus de lien avec les Français. Là, aujourd'hui, ça va être un déplacement bunkérisé. Il va faire un aller-retour, 40 minutes de discours, il s'en va. Donc il faut qu'il trouve quelque chose quand même, parce qu'il a, 4 ans. Moi, je veux bien les gens qui veulent le guillotiner, mais c'est notre président encore pendant 4 ans. Hein. Ce sont les institutions. Il a été élu pour un mandat de 5 ans. On va pas voter tous les ans à la présidentielle. Bon. Donc il a 4 ans. Il faut bien qu'il renoue le lien avec les Français, Jean-Baptiste. Alors, comment il doit faire?
Non, mais il y a un sujet. D'abord, je pense que, un, pour le mois d'avril, on le disait, l'agenda est dictée par le social. Donc c'est typiquement ce qui va se passer si le Conseil constitue censure pour partie de la loi, voire plus, c'est évidemment un fait politique. Si la réunion, si la mobilisation reste importante, malgré, comme le disait Kauter, des crues et des rebonds,
et
etc.
Qui vont commencer.
Et que ça reste un phénomène social extrêmement fort. Évidemment, ça teinte l'ambiance sociale. Et de toute façon, on a ça jusqu'en avril. Après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y aura d'autres éléments de l'agenda social. On en a parlé beaucoup. Et d'ailleurs, c'était en fait le vrai fond du sujet autour du travail, etc. Et ça, je pense que le gouvernement a envie d'engager le sujet. Encore faut-il que ce soit engageable. Et certainement, un remaniement qui va venir à l'été, on peut l'imaginer comme ça, mais honnêtement, est-ce que c'est avant à la hauteur de l'enjeu? Probablement pas, ça intéresse un peu les journalistes, etc. Et ça fait trois semaines pendant l'été, mais ça intéresse peu. Et puis après, il faut qu'il trouve effectivement quelque chose. Alors, est-ce qu'il peut aller sur un référendum, Kevin, pour rendre un peu la parole au peuple sur un sujet, sur, je sais pas,
la fin de vie,
etc. Pourquoi pas, mais je pense qu'il y a vraiment un sujet de retrouver le lien avec les Français au travers des outils.
Kevin, si M. Macron veut retrouver le lien avec les Français, il devrait commencer par arrêter par les mépriser. Parce que moi, il y a une phrase que j'ai toujours en tête, c'est cette phrase fabuleuse de notre Jupiter en herbe, c'est-à-dire que quand on entre dans une gare, quand on est dans une gare, il y a les Français qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, il y a ceux qui savent, ceux qui ont des études, ceux qui ont fait des études, ceux qui ont la science infuse, et il y a les autres qu'on ne peut pas écouter parce qu'ils ne sont pas légitimes. Et finalement, on en a fait des Français de seconde zone, et c'est ça qui lui explose au visage.
C'est son électorat. L'électorat d'Emmanuel Macron, si on caricature un peu, c'est la France qui va bien.
Oui,
c'est la France des retraités qui ont des bonnes retraites, c'est la France des cadres sup, c'est la France de ceux qui vivent dans les centres-villes, notamment parisiens. Je rappelle que Paris, notamment en 2017, a voté, la ville qui a le plus voté Macron, hein, et qui pourtant très bobo, etc. Donc c'est la France qui va bien. Et il a parfois tendance à ne vouloir parler qu'à cette France-là.
Oui, mais tu es le président de tous les Français.
Sauf une chose quand même, c'est que là, il s'est mis à dos une partie de la France qui va bien. Trois quarts des cadres sont contre cette réforme des retraites. Et c'est là où c'est dangereux pour lui.
Oui. Nous sommes avec Nicolas qui nous appelle de la Haute-Vienne. Bonjour Nicolas.
Bonjour RMC, bonjour Yann Gueule.
Bonjour Nicolas, est-ce que le président peut encore se déplacer, à votre avis, tranquillement, sereinement?
Mais mon Dieu, mais j'espère oui, quand même. Alors, il a été élu, pas par tout le monde, mais il a été élu à la majorité, il me semblait. Enfin,
tout à fait.
Démocratiquement, il n'a pas bourré les urnes, rien n'a été discuté là-dessus. Donc, il peut aller où il veut. Après, il ne nous a pas pris en traître. Hein. Je rappelle quand même que la réforme des retraites, il l'avait mise dans son programme. Et pour une fois, on a quelqu'un qui respecte son engagement. Donc moi, je trouve quand même qu'on est quand même très dur avec lui là-dessus. Alors, la forme, est-ce qu'il est méprisant? J'entends Kevin dire qu'il est trop haut, trop ci, trop ça. Oui, effectivement, il a peut-être pas toujours... Il a perdu peut-être un peu la vista qu'il avait au départ de nous surprendre et d'être un peu meilleur que n'avaient été les autres, ce qui n'était pas très dur après François Hollande. Et derrière, je suis quand même très surpris par tout ce que j'entends, parce que Sainte-Soline, on va tout détruire là-bas. Bon, moi je suis paysan, je ne sais pas s'il faut faire des bassines ou pas, techniquement je suis incapable de vous dire, parce qu'il n'y a aucun débat technique là-dessus. Mais quelque part, on remet en cause tout ce que les élus ont décidé. Les élus, ils ont décidé que ça se ferait. Ils ont donné de l'argent public, personne n'a été volé. Ce fric là-bas. Donc, on remet toujours tout en cause. Alors, on est 10 000 à remettre des choses en cause.
Alors, on remet en cause, mais parce que si vous écoutez les écologistes, ils disent au départ, il n'y a pas suffisamment de concertation avec les gens concernés.
Bateau, elle avait dit quoi au départ? Elle avait dit oui.
Oui, elle a changé d'avis.
Elle a changé d'avis. Bon, bah, d'accord, peut-être que ce n'est pas la bonne solution, mais il faut trouver. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des loups qui soient réintroduits parce qu'ils viennent bouffer mes brebis et qu'ils enlèvent tout le système de pâturage que j'essaie de mettre en place, et ça modifie toutes les choses. On manifeste, on rouspète, mais on n'est pas...
Ah oui, vous-même, vous remettez en cause une décision qui, à l'époque, sans doute, a été validée par des gens compétents, mais vous estimez...
Parce qu'aujourd'hui, elle est hyper impactante sur ma vie de paysan, mais à aucun moment, j'ai appelé la sédition, j'ai pas été chercher des...
Vous n'iriez pas gifler Emmanuel Macron, quoi?
Comme
certains veulent le faire aujourd'hui.
Mais pourquoi tu fais la caricature? Tu peux aller contester sans vouloir le gifler.
La Haute-Vienne est une terre de modération.
Il y en a beaucoup qui voudraient en ce moment le guillotiner. Mais
allez-y,
vraiment,
Nicolas.
Non, il y a beaucoup de haine. Merci à Jean-Baptiste de dire qu'on est une terre de modération. On est une terre de modération, mais on n'a jamais eu, à part Jean-Baptiste, on n'a jamais eu quelqu'un qui a été aux responsabilités qui n'est de chez nous. C'est peut-être aussi ça le problème, c'est qu'on attend quand même beaucoup ceux qui font du bruit, qui rouspètent, qui cassent, et qui... et qui détruisent tout et qui construisent rien, les écolos à Sainte-Soline. Je suis désolé, Julien Leguay, il est très sympa, il est battleur en formation, c'est génial, mais il construit rien, il n'explique rien. Les mecs qui font la bassine, ils arrosent, ils emploient du monde, ils installent des paysans avec eux, peut-être pas de la bonne façon, peut-être qu'il faut trouver autre chose, j'en sais rien, mais ils font au moins quelque chose. Et je trouve quand même que dans ce pays, pour rebondir sur le côté méprisant, le côté CSP+, qui dirige et qui décide, on est quand même hyper jaloux, les Français, on est toujours en train de regarder l'autre.
Ça,
au lieu de se secouer, au lieu de se dire, ben allez, je me bouge, je monte des projets, j'essaie de faire quelque chose. Quand Macron dit, tu traverses la rue, tu trouves du travail. Alors moi j'ai 42 ans, j'ai jamais eu besoin d'en chercher du travail parce que il y en a toujours eu sur la ferme et j'ai toujours bossé chez nous. Mais quelque part, je pense que quand on veut se bouger, on peut bien quand même trouver quelque chose et il faut arrêter de pleurnicher et se relever un petit peu les
manches. Nicolas, en France. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas.
Merci, Nicolas. Bon.
On va continuer la discussion.
Je suis parfaitement d'accord avec ça, c'est-à-dire que les Français sont dans la pleurnicherie perpétuelle, sont dans la jalousie perpétuelle, toujours en train de regarder ce qu'a le voisin, mais je sais pas, quand on est normalement constitué, on ne jalouse pas ce qu'a le voisin, on essaye d'avoir ce qu'il a, voire d'avoir encore mieux. Enfin, c'est une philosophie, pour moi, qui est une philosophie de base. Et de manière plus générale, on est quand même dans un pays d'assistés, où on attend tout de l'État, où il y a des personnes qui attendent les aides sociales
qui tombent.
En même temps,
l'État fait croire qu'il peut tout faire.
Mais c'est aussi le problème, c'est le problème du quoi qu'il en coûte. Et je trouve qu'on n'a pas assez responsabilisé les gens et croire que l'argent tombe du ciel comme ça alors que cet argent provient de nos impôts, je trouve ça grave.
Donc toi, tu trouves que les gens qui ont tenu la France pendant le Covid, tous ces métiers qu'on a
dit... Eux travaillent. Et j'ai beaucoup d'estime.
Et qui sont payés à leur juste valeur et qu'ils ont les moyens de gagner plus et qui ne veulent pas gagner plus et qui se complaignent comme ça. Donc les AVS se complaignent à leurs 800 euros, les femmes de ménage se complaignent à leurs 150 euros. Les agents de sécurité, ils sont très bien commissionnés. Je considère que dans ce pays, les métiers les plus essentiels qui font qu'on travaille tous ne sont pas payés à leur juste valeur et sont méprisés et qu'en plus ils ne sont pas valorisés.
Je parle des assistés, pas des travailleurs.
Emmanuel Macron, libéral, mais quand je aujourd'hui, vois Kevin, persona je me non grata partout en France. Merci à notre ami agriculteur d'avoir été avec Nicolas et on continue la discussion. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avant de continuer notre discussion sur le cas Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui attendu du côté des Hautes-Alpes, avec un comité d'accueil bien décidé à se faire entendre. Et on s'interroge sur le fait de savoir si oui ou non le président de la République peut se déplacer encore tranquillement, sereinement en France. On va en parler dans un instant avec Delphine des Hautes-Alpes, justement. La Coupe du Monde de rugby qui approche, les amis, et avec Total Energy, sponsor officiel de cette Coupe du Monde de rugby en France, là, de cette année 2023, on vous offre deux places pour une très belle affiche. Dès que vous entendrez le haka des Néo-Zélandais, vous aurez 5 minutes pour m'envoyer coupe par SMS au 732-16, coupe par SMS au 732-16, 3 SMS par personne, 75 centimes d'euros le SMS. Vous êtes tiré au sort, vous gagnez vos deux places pour l'une des affiches, l'un des matchs de cette Coupe du Monde de rugby en France. Et vous passez en plus dans le Super Moscato Show tout à l'heure pour le gagnant ou la gagnante. On va revenir à nous, j'aurai l'occasion de vous le rappeler d'ici la fin d'émission. Enfin, qui sait, le jingle du haka, il peut arriver là dans 10 minutes, dans 3 quarts d'heure, dans 1 heure, dans 2 heures. Il faut bien être attentif.
Il faut être vigilant.
Delphine est avec nous, bonjour Delphine.
Bonjour Delphine.
Bonjour à toute l'équipe.
Delphine des Hautes-Alpes, est-ce que vous allez faire le déplacement pour accueillir le président ?
Je pense que le pont de Sabine va être bloqué, donc ça me semble compliqué d'accéder jusqu'au président.
Ah oui, oui. Est-ce qu'à votre avis, il peut encore se déplacer où il veut, tranquillement et sereinement, le président ?
Vu le nombre de cars de CRS qui ont débarqué dans les Hautes-Alpes, honnêtement, je pense qu'il peut être tranquille, notre président.
Ah oui, là, vous avez vu débarquer les camions, vous avez vu passer là.
Impressionnant, impressionnant. Hein,
racontez-nous.
Petit département. Vous voyez, donc...
Vous n'avez jamais vu ça ?
Ah non, c'est très impressionnant. C'est très, très impressionnant. Et je pense qu'ils vont bloquer le pont de Savine. Comme ça,
pas d'accès à la population.
Voilà, pas d'accès.
Donc ça fait penser à du temps de Nicolas Sarkozy lorsqu'il se déplaçait en province. La ville, c'était la ville morte, c'est-à-dire qu'on enlève
ça
tout. C'était vraiment peut-être
à la distance. Ce matin, ça bouchonnait déjà. Donc à mon avis, je ne sais pas si l'intersyndicale arrivera jusqu'à lui, quoi.
Et alors, vous comprenez qu'aujourd'hui ce soit compliqué pour le président de la République, Delphine ?
Là, en ce moment, il me semble compliqué, ouais, ces déplacements.
Alors, je vais vous poser la question franchement. Est-ce qu'il vous sort par les yeux, Emmanuel Macron ?
En toute franchise,
Oui.
Oui.
Oui. Oui. Voilà, vous savez.
Oui. Voilà.
Pourquoi?
Écoutez, moi, je suis aide-soignante. Je vous avais déjà contacté il y a peu de temps pour vous expliquer ma situation. Je suis aide-soignante de nuit. Je me retrouve à l'heure d'aujourd'hui en inaptitude pour des problèmes de santé et je me dis, ouais, j'ai encore 20 ans à tirer et il va falloir que je fasse une reconversion. Les 64 ans, ça me paraît très loin, quoi, pour moi, vous voyez.
Oui, bien sûr.
Oui, voilà. Mais alors, il va vous répondre, lui ou ses ministres, que, en
oui,
fait, le problème.
C'est de me reconvertir, c'est tout.
Voilà, c'est ça. C'est que le problème, c'est pas la retraite, c'est votre parcours de professionnel, en fait.
Exactement, exactement. Mais bon, dans les métiers du soin, ça serait si on était entendu.
Ouais.
Ça fait bien longtemps qu'on n'est plus entendu. Et puis, dans les Hautes-Alpes, il y a des problématiques de fermeture, éventuellement, de maternité et tout.
Enfin, mais si vous étiez face à lui, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
De nous écouter. D'être moins dans le mépris, parce qu'effectivement, je trouve méprisant ses paroles ces derniers temps.
Mais du coup, si vous
ça revient tout le temps.
Hein, si vous vouliez vous reconvertir, dans quel secteur d'activité vous pourriez...
Vous savez, moi, je suis soignante. Et soignante, c'est un métier de choix, un métier de passion.
Bien sûr.
C'est compliqué de balancer la reconversion. C'est facile, c'est un joli mot. Après, la réflexion qui en découle, c'est autre chose, quoi.
Écoutez Delphine, merci d'avoir avec nous. Déjà, vous nous avez indiqué que c'était les Hautes-Alpes étaient en train de
barricader.
Si vous voulez de
Sabine le lac
de Gap, oui, ils vont bloquer le pont de Savine et il y aura pas d'accès, à moins de passer par le lac. Écoutez, en canoë.
Merci. C'est ce qu'on dit, ce qu'a dit l'intersyndicale. En hélico, tout en parapente ou en canoë, on va y aller, quoi.
C'est l'intersyndicale.
Merci Delphine d'avoir été avec nous.
Bonne journée.
À bientôt Delphine.
C'est un problème, c'est-à-dire que on peut pas nous vendre un déplacement en province. Emmanuel Macron va renouer avec les Français. Il va montrer qu'il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie et faire ainsi, c'est-à-dire arriver dans un endroit où il y a des quarts de CRS, de gendarmes partout. Alors je comprends, il faut protéger le président. Il n'est pas question que le président soit attaqué, etc. Mais voilà, et Nicolas Sarkozy, je me souviens à l'époque dans les grandes gueules, on l'avait dénoncé aussi. C'est faux déplacement en fait. Tu vois personne en fait. Il arrive. Enfin, Jean-Baptiste, toi tu en as fait. Il voit les élus, il voit les notables du coin. Il va parler 40 minutes. Il y a la petite coupette, puis ensuite il repart. Il n'a pas vu les Français, il a vu les notables, les élus.
Non, je pense que ça dépend vraiment des fois. Moi, tous les déplacements que j'ai fait avec lui, en général, lui, c'est ce que tu disais, il est allé au contact. En plus, il aime plutôt ça.
Oui, mais ça, on va lui interdire. Là.
Après, c'était des moments où c'était un peu moins tendu que maintenant. Ouais. Pendant les Gilets jaunes, c'était tendu. Et moi, je me souviens, on a eu des moments, y compris par exemple pendant la première réforme des retraites, il y a eu des moments extrêmement tendus pour moi avec les cheminots quand on allait sur des sites. Hein, donc, et là, on est clairement dans un moment où l'atmosphère est... Clairement, la tension est palpable.
Mais on peut ne pas se mentir aussi quand il est venu à Marseille, quand il allait dans les quartiers nord. Moi, je suis désolée, il allait à Bassin, c'est une cité que je connais bien. Samia Ghali a choisi...
Tout avait été nettoyé.
Exactement, a choisi une cité amie, pour entre guillemets, où elle connaît les gens et où les dealers ont joué le jeu, ils ont tout nettoyé, et où, en fait, il n'a pas été au contact des citoyens et des citoyens les plus fragilisés. Il n'a pas vu les vrais dealers, entre guillemets, et il n'a pas vu l'état dans lequel vivaient les Français qui vivaient là-bas. Donc, si tu veux qu'il y ait des mises en scène, on y est un peu habitué. Moi, j'ai rarement vu un président aller vraiment sur le terrain, à part se confronter pendant les salons type de l'agriculture à la population, aux agriculteurs et tout. Mais quand ils vont dans un déplacement, en général, c'est édulcoré et il y a déjà un premier filtre qui est fait. Mais là, effectivement, c'est limite méprisant pour les gens de venir les voir dans ces conditions. Ne viens pas, reste dans ta tour dorée, reste à l'Élysée.
Moi, je trouve ça formidable, ça me fait beaucoup rire. C'est toute une série. Il y a Macron à la campagne, Macron à la montagne, Macron à Paris, Macron ne peut pas recevoir Charles III, Macron est à l'étranger, on ne sait pas où. En fait, c'est pas un vrai président de la République, c'est un président de carte postale. C'est-à-dire qu'il arrive, il sourit, il nous fait croire qu'il a dialogué, qu'il a organisé un débat formidable, il rentre chez lui et il dit, voilà, je vous ai compris, c'est formidable, voilà comment on doit faire. Et tout ce qui est partenaires sociaux, opinion publique, je n'en ai rien à faire. C'est formidable, Macronie, c'est incroyablement démocratique. Bravo, Emmanuel.
C'est vrai que, par exemple, l'interview dans Pif Gadget, alors il faut reconnaître qu'elle a été faite il y a un mois. Oui, mais elle sort pas au bon moment. C'est-à-dire que le président n'a pas voulu recevoir l'intersyndicale, a fait une interview à la télé qui, visiblement, n'a pas eu l'impact désiré par l'Élysée. Et le seul truc qui ressort, c'est Pif Gadget, où répond.
On adore Pif Gadget, déjà.
Oui, d'accord, on adore, mais ça fait gag. Et ça fait un peu, genre, méprisant. C'est-à-dire, oui, en fait, il veut pas recevoir les gens qui sont dans la rue, mais il parle à Pif Gadget.
Alors,
même si l'interview a été donnée avant.
Surtout pour dire qu'en cas de crise grave, il faut retourner vers le peuple.
Voilà. Et c'est pas genre méprisable. C'est très méprisable. C'est pas un genre, en fait. C'est pas un sens. sentiment. Tu sais, quand il dit, pendant son interview, moi j'étais folle de rage, j'avais le Covid, la vérité était un peu tombée. Quand il dit, de toute façon, je me fous d'être impopulaire et je ne vais pas me représenter, c'est une phrase qui est hyper violente en fait. Il ne peut pas dire, je suis là encore pendant 4 ans, vous, peuple français, vous êtes à 75% contre cette réforme, je ne vous écoute pas, je vous méprise et j'en ai rien à foutre parce que je ne serai pas réélu. C'est hyper violent en fait.
Après, je vais le défendre un petit peu, Kauter. Oh. Non, mais il y a quand même des réformes indispensables à faire.
Oui, assumer les
3000 milliards de dettes, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Les marchés financiers qui nous surveillent, une crédibilité de la France qui est de plus en plus mise en question. Nos voisins européens qui ne comprennent pas ce qui se passe en France parce que eux, la retraite à 64 ans, ça fait déjà longtemps qu'ils sont au-dessus. Et je trouve que Macron quand même a un petit peu de courage politique de mettre ça sur la table. Le problème, c'est la pédagogie, c'est le contexte et il ne peut pas convaincre les Français en méprisant. C'est ça son problème. Moi, le fond de la réforme, je ne suis pas contre. Moi, je trouve ça plutôt intelligent, je trouve ça plutôt bien. Le problème, c'est que faire tout ce bordel pour 1 milliard d'euros, parce qu'il y a tellement eu de concessions, ça me laisse quand même pantois. Mais globalement, sur la philosophie de la réforme, je suis plutôt d'accord avec lui.
Moi, je pense qu'on peut payer aux travailleurs le quoi qu'il en coûte, en fait. Et c'est ça le véritable problème.
Sylvain d'Indre-et-Loire qui nous appelle. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour les GG, bonjour les amis, comment ça va?
Ça va, Sylvain, on a l'air en pleine forme. Vous travaillez encore ou vous êtes à la retraite?
Moi, je suis à la retraite depuis pas longtemps, moi, je suis un heureux, moi, je suis un vénard.
Quel âge avez-vous, Sylvain?
62.
Vous êtes retraité de quel secteur?
Industriel, je travaille dans l'industrie pharma.
D'accord, et retraite bien méritée alors, tranquille, vous profitez.
En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans l'industrie, comme un peu partout, c'est que ça se durcit, quoi. On oublie, on dit qu'on vieillit, etc. Mais les conditions de travail, quand même, sont de plus en plus dures. On nous demande de faire plus, avec moins de moyens, dans des délais raccourcis. C'est vrai qu'on subit des pressions quand même importantes pour obtenir des rendements, des résultats de plus en plus supérieurs, de façon bien sûr à enrichir les actionnaires. Malheureusement, c'est le jeu, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, on le sait. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que bien qu'effectivement la durée de vie augmente à grand renfort de Médoc et je ne sais quoi, très clairement, on durcit les conditions de travail et ça, on n'en parle pas beaucoup, quoi.
Alors Sylvain, revenons au président de la République. Oui, est-ce qu'il peut se déplacer sereinement, le chef de l'État, ou pas alors?
Ah bah oui, dans les conditions où il se déplace avec l'armée pratiquement derrière lui, il peut faire ce qu'il veut, ce monsieur. C'est le problème quelque part, c'est que.
S'il se déplace pas avec l'armée comme vous dites, il y en a certains qui sont tellement énervés et tellement fous furieux qu'ils seraient prêts physiquement s'en prendre à lui. Et ça, c'est inadmissible.
Il est en train de faire de la provoque. Là où, justement, il devrait aller apaiser les gens, faire de l'apaisement, il fait de la provoque.
Mais comment apaiser?
Elle est où, la provoque?
La provoque, c'est dire, regardez, moi je suis intouchable. Je viens vous voir, je continue à faire le beau, je peux tout me permettre, regardez. C'est-à-dire que dans un contexte aujourd'hui où une majorité des Français aujourd'hui lui disent non, 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 on ne veut plus vous entendre, on ne veut plus vous écouter, il vient sur le terrain, mais pour faire quoi? On a l'impression qu'il le fait exprès pour provoquer une fois de plus et dire...
Alors ça veut dire que le président de la République, il ne peut plus sortir de l'Élysée. Il reste à l'Élysée, barricadé, muré,
terminé. Non, mais il a autre chose à faire aujourd'hui, il a des gens à rencontrer, des gens avec qui dialoguer, et il a autre chose que d'aller faire le président carte postale, et d'aller se balader, de mobiliser des troupes
Sylvain,
sont des déplacements bidons, tout le monde.
Oui, mais alors, très bien, alors Sylvain, moi je suis d'accord avec vous, on enlève l'armée, les policiers. Mais vous savez très bien qu'il y aura toujours 2-3 fous furieux qui voudront aller physiquement s'en prendre à lui.
Mais ce n'est pas le moment d'aller faire le malin comme il le fait, faire le beau.
Donc il reste à l'Élysée.
Présenter un plan de gestion de l'eau, c'est pas faire le malin.
Ces déplacements-là, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la valeur ajoutée? Quel est le bien fondé d'un truc comme ça? Il a rien à faire. Il a autre chose à faire.
L'eau, c'est important.
Les Français, c'est pas en allant sur le terrain comme ça qu'il va les écouter. C'est pas vrai. Il connaît. Il sait ce que disent les Français. C'est tout simplement, c'est de la figuration ce qu'il est en train de faire. Faut arrêter de prendre les Français pour des jambons, quand même.
Vous avez raison. Et moi, j'invite le président, s'il veut, parce que Marseille, c'est une terre de contestation sur plusieurs points. Et bon, il dit qu'il adore Marseille. Bon, moi, je l'invite s'il veut, parce que bon, ils sont très mobilisés contre la réforme de retraite et contre la réforme des ports. À venir rencontrer, ouais, mais tu vois, c'est des interlocuteurs choisis qui viennent rencontrer les travailleurs du port, à savoir les marins, les douaniers, le chantier naval, les portuaires et les dockers. Tu vois, c'est 5 entités que j'ai identifiées pendant cette lutte-là et qui ont des revendications, y compris économiques, pour redynamiser le port, qu'ils viennent les écouter. Et moi, à moi seul, je garantis sa sécurité. Il n'y a aucun problème. Personne ne touchera les cheveux.
Le président pouvait y aller tranquille, avec du corps,
merci à Sylvain d'avoir été avec nous. Bonne journée, monsieur Sylvain. Bonne journée du côté de l'Indre-et-Loire.
Bonne continuation.
Du côté de Nazelles-Negrand. Le président de la République peut-il encore se déplacer? C'est la question que l'on pose. On va regarder votre sentiment. Est-ce qu'on va être sur le 2/3, 1/3? On est plus que ça, là. Hein.
Bah, non.
Non, il ne peut pas se déplacer à 84%. On est quasiment à 85%.